Café, radio et éducation populaire, une chronique pour mieux connaître les organismes citoyens des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, une présentation du RÉPAC 0312.
On va rejoindre quelqu'un qui va nous parler pour la chronique du RÉPAC. Donc, on va parler à Émilie Rochefort de la Maison des femmes de Québec. Salut Émilie!
Allô! Est-ce qu'on m'entend bien?
Très bien.
Super.
C'est parfait. Émilie, la Maison des femmes de Québec, donc, offre des services, bien sûr, et a une mission bien précise. Déjà, de par le nom, on se doute de quoi on va parler. Femmes victimes de violences, notamment de violences conjugales. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement à la Maison des femmes?
Oui, ben dans le fond, la mission de base là, de l'organisme, c'est vraiment de répondre aux situations d'urgence en violence conjugale en assurant un hébergement sécuritaire aux femmes et aux enfants et à leurs enfants. Puis on leur offre par le biais de la maison un lien de transition, de réflexion, d'orientation et de formation. Dans le fond, par exemple, là, en permettant à chaque femme de plus en connaître sur leurs droits, puis de comment les exercer aussi, de développer leur autonomie, de s'interroger avec les autres femmes sur les causes de la violence vécue dans la société. Et tout ça en créant, bien sûr, une solidarité entre elles, donc une sororité, et avec les enfants aussi, là, afin de réagir collectivement contre la violence.
Oui, et de façon individuelle aussi, parce que quand on sort d'un milieu violent aussi, on est souvent traumatisé, et donc d'avoir des contacts avec d'autres femmes et des intervenantes qui sont spécialisées en la matière, ça peut vraiment mettre un baume sur tout ça, mais ça prend quand même du temps, là, j'imagine, avant d'être plus calme face à cette situation-là quand on la vit, d'être plus posé, d'être capable d'être, comment dire, d'absorber de l'information, parce que vous dites formation, mais au début, j'imagine, ça doit pas rentrer.
Non, ben tu sais, puis la formation, c'est un gros mot, mais c'est beaucoup de par la sensibilisation, puis par la normalisation des émotions aussi, puis de venir normaliser le fait que ce qu'elles vivent, c'est comme émotion, c'est normal, c'est ce qu'elles ont vécu, la violence, entre autres, qui est pas normal, dans le fond.
Ouais,
ouais. Il y a un gros travail là, de sensibilisation, de dévictimisation aussi.
Est-ce qu'il y a un travail de déculpabilisation aussi à faire?
Oui, parce que souvent elles vont croire que elles sont responsables de la violence, mais c'est de vraiment les informer que elles sont pas responsables, c'est les personnes, les agresseurs qui vont être responsables là, de la violence qu'elles subissent.
Parce que souvent un agresseur, c'est la façon dont il va jouer dans le cerveau d'une victime, il va dire c'est de ta faute, hein, fait que là on est un peu pris au piège. Est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre de femmes que vous aidez par année par exemple?
Oui, on en a. Je les ai pas, par exemple. Mais en ce moment, c'est sûr que c'est biaisé un peu là avec les dernières années de pandémie. On a accueilli là 50% moins de femmes là, pour pouvoir leur permettre d'être en sécurité puis éviter que le virus
se transmette
dans la maison. Ouais, exact.
Ouais, donc vos capacités d'accueil étaient réduites en raison des mesures sanitaires. Parlons de violence conjugale maintenant. Bon, on connaît quand même une partie, on devine une partie des conséquences par rapport aux victimes et à la société, mais vous qui êtes dans le milieu, vous pouvez nous en dire davantage?
Oui, ben tu sais, ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que c'est cyclique, hein, la violence conjugale. Donc, tu sais, il y a quatre phases, en fait, qui commencent par la phase de tension, ensuite, ça passe à l'explosion de la violence, donc à l'agression, la justification après. L'agresseur va se justifier le comportement violent, puis demander pardon, et ensuite la lune de miel. Donc, la victime va toujours vivre dans un climat de crainte, de doute et d'espoir. Puis c'est vraiment aussi un rapport de domination dans lequel l'agresseur va instaurer un rapport de force en sa faveur à lui, en créant un climat de contrôle, justement.
OK. Quand on parle de climat de contrôle, ça s'effectue comment? Quand c'est à distance ou...
Ça peut être, tu sais, par le biais... Ben, à distance... ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par le téléphone, en menaçant la famille, en menaçant de partir avec les enfants, parce que à distance aussi, on sait qu'il y a beaucoup de violences aussi post-séparation. Donc, la violence conjugale va pas arrêter une fois que la relation, une fois que les deux personnes sont séparées. Ça continue par le... Tu sais, le conjoint va développer d'autres stratégies là pour contrôler. Puis ça, le contrôle est important aussi dans la notion parce que souvent, on entend que il a perdu contrôle, mais c'est vraiment pas une perte de contrôle, là, c'est une prise de contrôle, puis c'est un moyen qui est choisi, c'est intentionnel, calculé et réfléchi.
Oui, parce qu'on excuse souvent, dire, les hommes, on dit, mais il devait être déboussolé, il y a aussi souvent l'alcool qui entre en jeu, il avait bu, il avait pris des substances, bref, on excuse facilement les hommes, mais on ne croit pas facilement les victimes, comme c'est étrange.
Oui, c'est très étrange.
Très étrange. Émilie, maintenant, il y a ce tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale qui est en cours de création. Tu voulais en glisser un petit mot?
Oui, ben tu sais, c'est sûr que c'est très nouveau là. On est encore au début dans la création des comités, mais dans le fond, il y a eu 5 palais de justice qui ont été choisis comme pour participer au projet pilote, donc celui de Québec. Nous, on est très contentes, puis on espère vraiment que ça va permettre là, d'améliorer les pratiques judiciaires. Puis le gouvernement a mentionné aussi qu'il était intéressé à travailler en concertation avec les organismes qui sont spécialisés en la matière. Mmh. Donc, les maisons d'hébergement, c'est vraiment les mieux placées là, pour ce qui est de la violence conjugale parce que à chaque jour, là, en tant qu'intervenante, mais aussi en tant que femme, on travaille, on accompagne les femmes et les enfants dans leurs difficultés, face aux conséquences qu'elles vivent à cause de la violence conjugale. Et si on peut aider à améliorer les pratiques judiciaires pour les victimes, on va se mobiliser avec plaisir.
Oui, puis quand tu parlais tout à l'heure, je reviens sur ces cycles de la violence conjugale, mais c'est important de les connaître parce que quand on est dans cette situation-là, de savoir que la prochaine étape, ça va être ça. Hein? Il va revenir, puis il va essayer de se faire pardonner, il va essayer de me séduire à nouveau par différentes tactiques. Et là, on l'attend, et on l'attend de façon rationnelle, et on peut se prémunir contre la prochaine étape du cycle.
Exact. Puis, tu sais, c'est d'ailleurs le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, dans ses recommandations là, pour le projet, a demandé là, que les policiers, les procureurs, les juges, mais tout autre professionnel aussi qui ont à intervenir dans des situations de violence conjugale reçoivent une formation spécifique pour permettre de prendre des décisions, mais de comprendre aussi la problématique, les enjeux liés à la violence conjugale, puis éviter justement de prendre des décisions en fonction de biais ou de préjugés qu'on peut entendre là, dans les médias.
Je trouve ça tellement intéressant, la notion de cycle, parce que un des préjugés qu'on entend souvent, c'est cette femme-là, comment ça se fait qu'elle ne part pas, puis comment ça se fait qu'elle revient? Comment ça se fait qu'elle revient? Puis là, ça revient à dire c'est de sa faute à elle, mais quand on parle de cycle, c'est qu'on a des stratégies pour exercer ce contrôle-là et que ça fonctionne. Et donc, c'est difficile de sortir de ça.
Oui, vraiment. Puis je pense que c'est vraiment la clé, là, que tous les professionnels, les gens aient une formation pour bien comprendre le cycle, pour pas amener à victimiser la femme quand elle retourne ou quand elle a des doutes ou quand elle pense revenir avec le conjoint, plutôt que de la juger ou plutôt que la juger, juste l'accompagner puis lui dire, bien, on est là, vas-y, fais ton expérience, puis au pire, rappelle-nous. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Puis des fois, elle a besoin d'aller vérifier quelque chose, puis elle sait qu'on est là, fait qu'au moins, c'est positif, en fait, comme relation qu'on a eue avec elle.
Oui. Ben merci beaucoup, Émilie, de nous avoir parlé de la Maison des femmes de Québec et de sa mission. Bravo pour votre travail à toutes, parce que les intervenantes, vous faites un travail extraordinaire, vraiment. Une chance que vous êtes là. Maison des femmes de Québec, merci beaucoup. Et si on veut vous contacter, on passe par quel moyen?
On a la ligne directe ici. T'sais, nous, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est au 418-522-0042. Sinon, il y a aussi SOS Violence Conjugale, que eux, c'est vraiment, il y a une intervenante aussi 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et elle va faire le tour des maisons d'hébergement pour être sûre de trouver une intervenante disponible avec la personne qui appelle. Donc, tu sais, que vous soyez proche, que vous soyez un intervenant avec vous pensez que votre la personne que vous intervenez avec est victime de violence conjugale, que vous soyez victime de violence conjugale, n'hésitez pas à appeler à SOS Violence Conjugale. C'est 1-800-363-9010.
Oui, puis on peut commencer par simplement poser des questions. Mm-hmm. Puis ça veut dire qu'on commence la réflexion. SOS Violence Conjugale est là pour ça. Merci beaucoup, Émilie.
Merci à toi.
Bye-bye.
Bye-bye.
On fait une pause, on revient avec Marie-Ève Doyon.
Café, radio et éducation populaire, une chronique pour mieux connaître les organismes citoyens des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, une présentation du RÉPAC 0312.